Les fiancés, chapitre 8. Carnéade. Qui était cet homme-là? Se demandait à lui-même Don Abondio, assis sur son grand fauteuil, dans une chambre au premier étage, avec un petit livre ouvert devant lui, lorsque Perpétua entra pour lui porter le message. Carnéade. C'est un nom qu'il me semble bien avoir lu quelque part, ou entendu prononcer. Ce devait être un homme d'études, un grand lettré des temps anciens. C'est un nom dans ce genre-là, mais qui diable était-ce donc? Tant le pauvre homme était loin de prévoir l'orage qui se formait sur sa tête. Il faut savoir que Don Abondio se plaisait à faire chaque jour un peu de lecture, et un curé, son voisin, qui avait une petite bibliothèque, lui prêtait un volume après l'autre, le premier qui lui tombait sous la main. Celui sur lequel méditait en ce moment Don Abondio, convalescent de la fièvre de la peur, plus guéri même, quant à la fièvre, qu'il n'aurait voulu le laisser croire, était un panégyrique en l'honneur de Saint-Charles, prononcé, 2 ans avant, avec grande emphase et écouté avec une admiration non moins grande, dans la cathédrale de Milan. Le saint y était comparé, pour l'amour de l'étude, à Archimède. Et jusque-là, Don Abondio ne s'était pas trouvé embarrassé parce que Archimède a produit des œuvres si curieuses, a tant fait parler de lui, que, pour en savoir quelque chose, il n'est pas besoin d'une érudition très vaste. Mais après Archimède, l'orateur appelait aussi à figurer dans une comparaison Carnéade. Et ici, le lecteur s'était vu arrêter tout court. Ce fut dans ce moment que Perpétua entra pour annoncer la visite de Tonio. « À cette heure-ci, » dit aussi Don Abondio, comme c'était tout simple. « Que voulez-vous? Ces gens-là n'ont pas de discrétion. Mais si vous ne le prenez à la volée... En effet, si je ne le prends pas dans ce moment, qui sait quand je pourrai l'avoir? Faites-le venir. » Hey, « êtes-vous bien sûr, au moins, que ce soit lui ?»«
Diable !» répondit Perpétua.
Et elle descendit, ouvrit la porte et dit « Où êtes-vous » Tonio se montra, et dans le même moment s'avança aussi Agnese, qui salua Perpétua par son nom. « Bonsoir, Agnese, » dit Perpétua. « D'où venez-vous comme ça, à l'heure qu'il est ?»«
Je viens de... »
Elle nomma un petit village voisin.
« Et si vous saviez ?» continua-t-elle,
je m'y suis arrêtée plus longtemps, précisément à cause de vous.
« Oh, et pourquoi ?» demanda Perpétua.
Et se tournant vers les deux frères, « Entrez, dit-elle, je vous suis. » « Parce que, répondit Agnese, une de ces femmes qui veulent parler sans savoir les choses, s'obstinait, le croiriez-vous bien, à me dire que si vous n'aviez pas épousé Beppe Suolavecchia ni Anselmo Lugigna, c'est parce qu'ils n'avaient pas voulu de vous.
Je soutenais, moi, que vous les aviez refusés l'un et l'autre.
Certainement. Oh, la menteuse, l'impudente menteuse. Qui est cette femme? Ne me le demandez pas, je n'aime pas à mettre les gens mal ensemble.
Vous me le direz, vous devez me le dire. Oh, la menteuse.
Voilà pourtant, mais vous ne sauriez croire combien j'ai regretté de ne pas bien savoir toute l'histoire pour confondre cette personne.
Voyez donc s'il est possible de forger ainsi des comptes, s'écria de nouveau Perpétua.
Et elle reprit aussitôt. Quant à Beppe, tout le monde sait et a pu voir. Eh, Tonio, poussez la porte tout contre et montez toujours, je vous suis.
Tonio répondit du dedans.
Oui.
Et Perpétua continua sa chaleureuse narration.
En face de la porte de Don Abondio, s'ouvrait, entre deux petites maisons, une ruelle qui ensuite tournait vers les champs. Agnese marcha de ce côté, comme si elle avait voulu se mettre un peu à l'écart pour parler plus librement, et Perpétua la suivit. Lorsqu'elles eurent tourné le coin et qu'elles furent dans un endroit d'où l'on ne pouvait plus voir ce qui se passait devant la maison de Don Abondio, Agnese toussa fort. C'était le signal. Renzo l'entendit, sollicita d'un serrement de bras le courage de Lucia, et tous deux, sur la pointe du pied, s'avancèrent, rasant à pas de loup la muraille. Ils arrivèrent à la porte, la poussèrent doucement, doucement.
Baissés et en grand silence, ils entrèrent dans le vestibule où étaient les deux frères à les attendre. Renzo repoussa la porte bien doucement encore, et tous les quatre se mirent à monter l'escalier, ne faisant pas de bruit pour un. Arrivés sur le palier d'en haut, les deux frères s'approchèrent de la porte de la chambre qui était sur le côté de l'escalier. Les fiancés se serrèrent contre le mur. « Deo gracias !» dit Tonio d'une voix claire et déployée. « C'est Tonio, n'est-ce pas ? Entrez !» répondit la voix du dedans. Le personnage appelé ouvrit la porte tout juste autant qu'il le fallait pour que lui et son frère puissent passer l'un après l'autre. L'arrêt de lumière, qui sortit inopinément par cette ouverture et se dessina sur le carrelage obscur du palier, fit tressaillir Lucia comme si elle était découverte. Les frères étant entrés, Tonio tira la porte après lui. Les fiancés demeurèrent immobiles dans les ténèbres, prêtant l'oreille, retenant leur souffle. Le bruit le plus fort était le battement que faisait le pauvre cœur de Lucia. Don Abbondio, assis comme nous l'avons dit sur un vieux fauteuil, était enveloppé d'une vieille soutane, coiffé d'un vieux bonnet, à bourrelet circulaire qui lui faisait comme une bordure autour du visage sur lequel une petite lampe projetait sa faible lumière. Note du traducteur. Papaline, bonnet du pape, tel qu'on le voit dans la plupart des portraits du souverain pontife. Fin de la note. Deux épaisses touffes de cheveux qui s'échappaient de dessous le bonnet, deux épais sourcils, deux épaisses moustaches, un épais bouquet de barbe au menton, tout cela blanchi par les ans, tout cela épars sur cette face brune et ridée, pouvait se comparer à des buissons couverts de neige sortant d'une ruine de rochers au clair de la lune. « Ah ah !» fut son salut, pendant qu'il ôtait ses lunettes et les mettait dans le petit livre. « Monsieur le curé dira que je suis venu tard, » dit Tonio en s'inclinant, ce que fit aussi, mais plus gauchement, Gervaso. « Sûrement qu'il est tard. » Tard de toutes les manières. Vous savez, n'est-ce pas, que je suis malade? Oh, j'en suis fâché. Vous devez l'avoir entendu dire. Je suis malade, et je ne sais quand je pourrai sortir. Mais pourquoi avez-vous mené avec vous ce garçon?
Comme ça, par compagnie, monsieur le curé.
Allons, voyons. Ce sont 25 berlinguets neuves, de celles qui ont le Saint-Ambroise à cheval, dit Tonio en tirant un petit paquet de sa poche. Voyons, répéta Don Abbondio. Et, prenant le paquet, il remit ses lunettes, l'ouvrit, en sortit les berlinguets, les compta, les tourna, les retourna, les trouva sans défaut. « Maintenant, monsieur le curé, vous me donnerez le collier de ma Tecla ?»«
C'est juste, répondit Don Abbondio.
Puis il alla vers une armoire, tira une clé de sa poche, et, regardant autour de lui comme pour tenir éloignés les spectateurs, il ouvrit en partie l'une des portes, remplit de sa personne l'ouverture, mit la tête dedans pour regarder, et un bras pour prendre le collier, le prit, et, refermant l'armoire, le remit à Tonio en disant « C'est-y bien ?»«
À présent, dit Tonio, ayez la bonté de mettre un peu de noir sur du blanc. »«
Encore ceci, dit Don Abbondio, ils les savent toutes. Oh, comme le monde est devenu méfiant. Est-ce que vous ne vous fiez pas à moi ?»
« Comment, monsieur le curé, si je m'y fie, vous me faites injure. Mais comme mon nom est sur le gros livre, du côté de la dette, par cette raison, puisque vous avez déjà pris la peine d'écrire une fois, il paraît à propos de la vie à la mort. »«
Bien, bien !» interrompit Don Abbondio, et en grommelant, il tira à lui un tiroir de sa table, en sortit écritoire, plume et papier, et se mit à écrire, répétant de la voix les mots à mesure qu'il sortait de la plume. Pendant ce temps, Tonio, et à un mi-signe de celui-ci, Gervaso, se mirent debout devant la table, de manière à ôter au curé la vue de la porte. Et, comme par désœuvrement, ils allaient frottant de leurs pieds le plancher pour donner à ceux qui étaient dehors le signal d'entrée, et pour couvrir en même temps le bruit de leurs pas. Don Abbondio, tout à son affaire d'écriture, ne prenait pas garde à autre chose. Au frottement des quatre pieds, Renzo saisit un bras de Lucia, le serra pour qu'elle prît courage, et s'avança, la traînant après lui toute tremblante, car d'elle-même elle n'eût pu venir. Ils entrèrent tout doucement, sur la pointe du pied, retenant leur haleine, et se cachèrent derrière les deux frères. Cependant, Don Abondio, ayant fini d'écrire, relut attentivement, sans lever les yeux de dessus le papier, plia la feuille en quatre en disant « Serez-vous content cette fois ?» Et, prenant d'une main sur son nez ses lunettes, de l'autre, il présenta le papier à Tonio en relevant la tête. Tonio, en même temps qu'il tendait la main pour prendre le papier, se retira d'un côté. Gervaso, sur un signe qu'il lui fit, se retira de l'autre. Et au milieu, comme par la subite division d'une décoration de théâtre, apparurent Renzo et Lucia. Don Abondio vit confusément d'abord, vit clair ensuite, s'effraya, s'étonna, se courroussa, réfléchit, prit une résolution. Tout cela dans le temps que Renzo mit à prononcer les mots. « Monsieur le curé, en présence de ces témoins, voici ma femme. » Ses lèvres n'étaient pas encore revenues au repos que Don Abondio, laissant tomber le papier, avait déjà empoigné de la main gauche et soulevé la lampe, saisi de la droite et tiré violemment à lui le tapis qui couvrait la table, jetant à terre livres, papiers, écritoires et sabliers, et que, d'un bond fait sur lui-même entre la table et le fauteuil, il s'était rapproché de Lucia. La pauvre fille, avec sa voix douce et dans ce moment toute tremblante, avait à peine pu dire « Et voici !» que Don Abondio lui avait incivilement jeté le tapis sur la tête et la figure pour l'empêcher d'achever la formule. Et tout aussitôt, laissant tomber la lampe qu'il tenait de l'autre main, il se servit des deux ensembles pour la coiffer du tapis, si bien qu'il l'étouffait presque. En même temps, il criait de toute la force de ses poumons « Perpétua ! Perpétua ! À la trahison ! Au secours !» Le lumignon, mourant sur le plancher, jetait une lumière pâle et vacillante sur Lucia, qui, tout à fait égarée, ne cherchait pas même à se dégager et pouvait être prise pour une statue ébauchée en terre glaise sur laquelle l'artiste a jeté un linge humide. Toute lumière ayant enfin cessé, Don Abondio laissa la pauvre fille et alla cherchant à tâtons la porte qui donnait dans une chambre plus reculée, la trouva, entra dans cette chambre, se ferma dedans, sans cesser de crier « Perpétua ! À la trahison ! Au secours ! Sortez de cette maison ! Sortez de chez moi !» Dans l'autre pièce, tout était désordre et confusion. Renzo, tâchant d'arrêter le curé et ramant de ses mains comme s'il jouait à Colin Maillard, était arrivé à la porte et frappait en criant « Ouvrez, ouvrez ! Ne faites pas de tapage !» Lucia appelait Renzo d'une voix défaillante et disait d'un ton de prière « Allons-nous-en, allons-nous-en, pour l'amour de Dieu !» Tonio, à quatre pattes, balayait de ses mains le plancher pour avoir, s'il pouvait, sa quittance. Gervaso, mourant de peur, criait, sautait au hasard, cherchant la porte de l'escalier pour se sauver. Au milieu de cette scène si étrangement agitée, nous ne saurions ne pas nous arrêter un moment à faire une remarque. Renzo, qui portait le trouble nuitamment dans la maison d'autrui, qui s'y était introduit par une manœuvre furtive et qui tenait le maître lui-même assiégé dans une chambre, a toute l'apparence d'un oppresseur. Et dans le fait, néanmoins, c'était lui qui était l'opprimé. Don Abondio, surpris, mis en fuite, épouvanté, pendant qu'il vaquait tranquillement à ses occupations, semblerait la victime. Et en réalité, pourtant, l'injustice était de son côté. Ainsi va souvent le monde. Je veux dire qu'il allait ainsi au XVIIe siècle. L'assiégé, voyant que l'ennemi ne faisait pas mine de retraite, ouvrit une croisée qui donnait sur la place de l'église et se mit à crier « Au secours ! Au secours !» Il faisait le plus beau clair de lune du monde. L'ombre de l'église, et plus loin l'ombre du clocher allongé en pointe aiguë, s'étendait obscure et nettement tracée sur le sol herbeux et tout éclairé de la place. Chaque objet se pouvait distinguer presque comme de jour, mais à quelque distance qu'arriva le regard, nul indice d'être vivant ne se montrait. Contre le mur latéral de l'église, cependant, et précisément du côté du presbytère, était un petit réduit, une étroite loge où couchait le sacristain. Celui-ci fut réveillé par ces cris étranges, fit un bond sur son lit, en descendit précipitamment, ouvrit une petite fenêtre, mit la tête dehors, ayant les yeux encore à demi fermés, et dit « Qu'est-ce que c'est ?»« Courez, Ambrogio, au secours, du monde chez moi !» cria vers lui Don Abbondio. « J'y vais tout de suite !» répondit l'autre. Il retira sa tête, referma la fenêtre, et, quoique à demi endormi et plus qu'à demi transi de peur, il trouva sur le champ un expédient pour donner plus de secours qu'il ne lui en était demandé, sans se mettre lui-même dans la bagarre, quelle qu'elle pût être. Il prend ses choses qu'il tenait sur son lit, les met sous son bras comme un chapeau de gala, et descend par sauts un petit escalier de bois. Il court au clocher, saisit la corde de la moins petite des deux cloches qui s'y trouvait, et sonne à manière de tocsin. Ton, 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 ton. Les villageois couchés dans leur lit se mettent d'un bond sur leur séant. Les jeunes garçons étendus au grenier sur la paille prêtent l'oreille et se dressent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le tocsin? Est-ce le feu? Des voleurs? Des brigands? Plusieurs femmes conseillent à leurs maris, les prient de ne pas bouger, de laisser courir les autres. Quelques-uns se lèvent et vont à la fenêtre. Les poltrons, comme s'ils se rendaient aux prières qui leur sont faites, retournent sous les couvertures. Les plus curieux et les plus braves descendent pour prendre leurs fourches et leurs fusils et courir au bruit. D'autres restent pour voir. Mais avant qu'ils fussent tout prêts, avant même qu'ils fussent bien dégagés du sommeil, le bruit était parvenu aux oreilles d'autres personnes qui veillaient non loin de là, debout et leurs habits sur le corps. Les bravi dans un endroit, Agnese et Perpetua dans un autre. Nous dirons d'abord brièvement ce qu'avaient fait les premiers depuis le moment où nous les avons laissés, partis dans la masure et partis au cabaret. Ces trois-ci, lorsqu'ils virent toutes les portes fermées et la rue déserte, sortirent à la hâte, comme s'ils s'étaient aperçus qu'il était tard, et en disant qu'ils allaient tout de suite reprendre le chemin de leur demeure. Ils firent un tour dans le village pour bien reconnaître si chacun était rentré chez soi, et en effet, ils ne rencontrèrent âme qui vive et n'entendirent pas le moindre bruit. Ils passèrent aussi bien en silence devant notre pauvre petite maison, la plus tranquille de toutes, puisqu'il n'y avait personne. Ils allèrent alors directement à la masure et firent leur rapport au seigneur Grisot. Aussitôt, celui-ci mit sur sa tête un grand chapeau rabattu, sur ses épaules un manteau de toile cirée garni de coquilles, prit un bourdon de pèlerin, dit « Marchons en bravi, silence et attention aux ordres !» s'achemina le premier, les autres à sa suite. Et en un moment, ils arrivèrent à la petite maison par un chemin opposé à celui par lequel notre petite troupe s'en était éloignée, allant, elle aussi, à son expédition. Le Grisot arrêta son monde à quelques pas de distance, s'avança seul pour explorer les lieux, et, voyant tout désert et tranquille au dehors, il fit venir à lui deux de ses brigands, leur donna l'ordre d'escalader sans bruit le mur qui entourait la cour, et, une fois dedans, de se cacher dans un coin derrière un figuier touffu qu'il avait remarqué le matin. Cela fait, il frappa un petit coup à la porte avec l'intention de se dire un pèlerin égaré qui demandait asile jusqu'au jour. Personne ne répond. Il frappe de nouveau un peu plus fort. Pas même un chute en retour. Alors il va chercher un troisième bandit, le fait descendre dans la cour, de la même manière que les deux autres, avec ordre de détacher bien délicatement la serrure pour avoir libre l'entrée et la retraite. Tout s'exécute avec grande précaution et plein succès. Il va appeler les autres, les fait entrer avec lui, les envoie se cacher à côté des premiers, repousse la porte bien doucement, y pose en dedans deux sentinelles et va droit à la porte de la maison. Il frappe encore là et il attend. Il pouvait attendre. Doucement, très doucement, il force encore cette serrure. Personne du dedans ne dit
Qui est là ?
Personne ne se fait entendre.
Ce ne saurait aller mieux. En avant donc.
Psst ! Il appelle ceux du figuier, entre avec eux dans la chambre d'en bas, où le matin il avait méchamment attrapé ce certain morceau de pain. Il tire de sa poche Amadou, pierre, briquet, allumette, allume une petite lanterne, entre dans l'autre chambre plus au fond, pour s'assurer que personne ne s'y trouve. Il n'y a personne. Il revient, va vers la porte de l'escalier, regarde, prête l'oreille, solitude et silence. Il laisse au rez-de-chaussée deux autres sentinelles, se fait suivre du Grignapoco, un bravo du comté de Bergame, qui devait seul menacer, apaiser, commander, être en un mot celui qui parlerait, afin que son langage pût faire croire à Agnese que l'expédition venait de ses contrées. Avec cet homme à ses côtés et les autres derrière lui, le Grisot monte en tapinois, maudissant en son cœur chaque marche qui craque, chaque pas de ses coquins qui fait du bruit. Enfin il est en haut, ici le gîte du lièvre. Il pousse du bout des doigts la porte qui donne entrée dans la première chambre. La porte cède, une petite ouverture se fait. Il y présente l'œil, c'est tout obscur. Il y présente l'oreille pour entendre si quelqu'un souffle, ronfle, remue de quelque manière là-dedans. Rien. Donc, en avant. Il met la lanterne devant son visage pour voir sans être vu, ouvre tout à fait la porte, voit un lit, il y court. Le lit est fait et uni. Le revers de la couverture proprement rangé sur le chevet. Il plie les épaules, se tourne vers sa troupe, fait signe qu'il va voir dans l'autre chambre et qu'on est à le suivre bien doucement. Il y entre, fait le même manège, ne trouve rien de plus.
« Que diable est ceci ? » dit-il alors. « Quelque chien de traître nous aurait-il vendu ?»
Ils se mettent tous, avec moins de précaution, à regarder, à fureter dans tous les coins. Ils mettent la maison sens dessus-dessous. Pendant que ceux-ci sont à cette besogne, les deux qui font la garde à la porte de la rue entendent la marche de petits pieds qui s'avancent en se pressant. Ils s'imaginent que celui qui vient, quel qu'il puisse être, passera droit. Ils restent quoi, et à tout événement, se tiennent sur le qui-vive. Dans le fait, les petits pieds s'arrêtent précisément devant la porte. C'était Ménico qui accourait, envoyé par le père Cristoforo, pour dire aux femmes qu'au nom du ciel, elles se sauvassent de leur maison à l'instant même et s'allassent se réfugier au couvent, parce que... le pourquoi vous le savez. Il prend la poignée extérieure de la serrure pour frapper et sent cette serrure branlée dans ses doigts, déclouée et détachée.
« Qu'est-ce que ceci » pense-t-il.
Et il pousse timidement la porte, elle s'ouvre. Ménico met, non sans grande crainte, le pied dans la cour, et tout à coup, il se sent saisir par les deux bras, en même temps que deux voix, l'une à droite, l'autre à gauche, lui disent d'un ton bas mais menaçant
« Silence, ou tu es mort !»
L'enfant, tout au contraire, pousse un grand cri. L'un des bandits lui met la main sur la bouche, l'autre sort un coutelas pour lui faire peur. Le pauvre Ménico tremble comme la feuille et n'essaie même plus de crier. Mais au même instant, comme à sa place et sur un ton bien différent, se fait entendre ce premier coup de cloche si imprévu, et à la suite une tempête d'autres coups l'un touchant l'autre. « Qui est en faute est en crainte ?» dit le proverbe milanais. L'un et l'autre des deux coquins crut entendre dans ses coups son nom, son prénom, son surnom. Ils lâchent les bras du petit garçon, retirent précipitamment les leurs, ouvrent toutes grandes leurs mains et leurs bouches, se regardent dans les yeux et courent vers la maison où était le gros de la troupe. Ménico se sauve à toutes jambes dans la rue, du côté du clocher, où à coup sûr il devait y avoir quelqu'un. Les autres bandits qui fouillaient la maison de la cave au grenier n'ont pas été moins frappés du terrible tintement. Ils se troublent, vont et viennent en désordre, se croisent, s'entrechoquent. Chacun cherche le chemin le plus court pour gagner la porte. Et pourtant, c'étaient tous gens éprouvés et habitués à montrer leur face à l'ennemi. mais ils ne purent tenir ferme contre un péril indéterminé et qui ne s'était pas fait voir un peu de loin avant de tomber sur eux. Il fallut toute la supériorité du Grisot pour les tenir réunis, de manière que ce fût une retraite et non une fuite. Comme le chien qui accompagne un troupeau de pourceaux court tantôt ici, tantôt là, sur ceux qui se débandent, prend aux dents l'oreille de l'un et le tire vers le troupeau, de son nez en pousse un autre, aboie contre un autre encore qui sort en ce moment de la file, de même le pèlerin saisit au toupet l'un de ses hommes qui déjà touchait le seuil de la porte et le retire violemment en arrière. Il repousse en arrière avec son bourdon celui-ci, celui-là, qui s'y dirigeait. Il crie après les autres qui courent en tous sens sans savoir où, et fait tant qu'il les rallie tous au milieu de la cour. « Vite, vite, pistolets en main, couteaux prêts à jouer, tous ensemble et puis nous irons. C'est ainsi que l'on va. Qui voulez qui nous touche si nous nous tenons bien ensemble, grand buteur que vous êtes? Mais si nous nous laissons attraper un à un, les paysans même nous rosseront. Fi donc, suivez-moi et marchez unis. » Après cette courte harangue, il se mit à leur tête et sortit le premier. La maison, comme nous l'avons dit, était au bout du village. Le Grisot prit le chemin qui menait dehors et tous le suivirent en bon ordre. Laissons-les aller et retournons un pas en arrière pour rejoindre Agnésée et Perpétua que nous avons laissés dans un certain petit chemin. Agnésée avait tâché d'éloigner l'autre le plus possible de la maison de Don Abondio et pendant quelque temps la manœuvre avait réussi. Mais tout à coup, la servante s'était souvenue de la porte restée ouverte et avait voulu retourner. Il n'y avait rien à dire à cela. Agnésée, pour ne pas lui donner de soupçons, avait été obligée de tourner avec elle et de la suivre, tâchant néanmoins de la retenir chaque fois qu'elle la voyait bien animée dans le récit de ses mariages manqués. Elle faisait semblant de lui prêter grande attention et, de temps en temps, pour le lui marquer ou pour soutenir le babil, elle disait « Certainement, maintenant je vois ce que c'est. C'est très bien, la chose est claire. Et puis ? Et lui ? Et vous ?» Mais pendant le manège, elle se tenait à elle-même un autre discours. « Seront-ils sortis maintenant ? Ou bien y sont-ils encore ? Quels étourdis nous avons été tous les trois, en ne songeant pas à convenir de quelque signal pour m'avertir quand ce serait fait ? C'est une fière sottise, mais elle est faite. Il n'y a plus à présent d'autre remède que d'amuser cette femme le plus longtemps que je pourrai. Au pis-aller, ce sera un peu de temps perdu. » Ainsi, à petite marche et à petite pause, elles étaient revenues jusqu'à peu de distance de la maison de Don Abondio, qu'elles ne voyaient pourtant pas encore, à cause du coin. Et Perpétua, se trouvant à un point important de la narration, s'était laissé arrêter sans faire résistance, sans même s'en apercevoir, quand tout à coup vint retentissant d'en haut, dans le vide immobile de l'air, dans le vaste silence de la nuit, ce premier cri désordonné de Don Abondio. « Au secours, au secours !»« Miséricorde, qu'est-il arrivé ?» cria Perpétua, et elle voulut courir. « Qu'y a-t-il donc, qu'y a-t-il ? » dit Agnésée en la retenant par sa jupe. « Miséricorde, est-ce que vous n'avez pas entendu ?» répliqua l'autre en se dégageant. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il donc ?» répéta Agnésée en lui prenant le bras. « Diable de femme ! » s'écria Perpétua, en la repoussant pour se mettre en liberté, et elle prit sa course. Dans ce moment, se fit entendre, plus éloigné, plus aigu, plus bref, le grand cri de Ménico. « Miséricorde ! » cria Agnésée à son tour. Et la voilà courant après l'autre. Elles avaient à peine levé les talons quand la cloche tinta. Un coup, deux, trois, et cela se suit. C'eût été pour elles des éperons si elles en avaient eu besoin. Perpétua arrive de quelques instants la première. Tandis qu'elle veut pousser la porte s'ouvre à plein du dedans. Et sur le seuil paraissent Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, qui, ayant trouvé l'escalier, en avait sauté les marches quatre à quatre, et, entendant ensuite cette terrible sonnerie, couraient de toutes leurs forces pour se sauver. « Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda Perpétua tout essoufflé aux deux frères, qui lui répondirent par une bonne poussée et tournèrent le coin.
« Et vous, comment? Que faites-vous ici ? »
demanda-t-elle ensuite à l'autre couple quand elle en eut reconnu les figures. Mais ceux-ci sortirent d'eux-mêmes sans répondre. Perpétua, pour se porter plus vite là où le besoin était le plus grand, ne fit pas d'autres questions, entra précipitamment dans le vestibule et courut, du mieux qu'elle put dans l'obscurité, vers l'escalier. Les deux fiancées demeuraient-elles, se trouvèrent en face d'Agnese, qui arrivait avec tout son trouble.
« Ah, vous voilà !» dit celle-ci, ayant peine à tirer les mots de son gosier. « Comment ça s'est-il passé? Pourquoi cette cloche? Il me semble avoir entendu. » « à la maison !» dit Renzo, « avant qu'il vienne du monde !» Et il prenait le chemin.
Mais Menico arrive en courant, les reconnaît, les arrête, et encore tout tremblant leur dit
« Où allez-vous ? Retournez, retournez, par ici, au couvent !»«
Est-ce toi qui ?» commençait à dire Agnese.
« Qu'est-ce donc qu'il y a ?» demandait Renzo.
Lucia, de plus en plus égarée, se taisait et tremblait.
« Il y a le diable dans votre maison !» reprit Menico haletant. « Je les ai vus, moi, ils ont voulu me tuer !»«
Le père Cristoforo l'a dit, et vous aussi, Renzo, il a dit que vous veniez tout de suite. »«
Et au surplus, je les ai vus, moi. Quel bonheur que je vous trouve tous ici. Je vous parlerai quand nous serons dehors. »
Renzo, qui des trois avait le mieux sa tête, pensa que par ici ou par là il fallait s'en aller promptement avant qu'il accourût du monde, et que ce qu'il y avait de plus sûr était de faire ce que Menico conseillait, ou plutôt ce qu'il commandait avec la force d'un être plein d'épouvante. En chemin, ensuite, et une fois hors de danger, on pourrait demander à l'enfant une explication plus claire.
« Passe devant, lui dit-il. Allons avec lui, dit-il aux femmes. »